Toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire, sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes, ou le 103.1 Radio Alliance Plus, agglomération Nîmoise, et puis si vous êtes au-delà de ces deux départements, les www.fmplus.org. Et toujours des mots pour le dire, avec Michel Théron et le Christ Pélican. Voilà, hein, qui nous accompagne.
Le Christ Pélican, qui nourrit ses enfants en déchirant sa poitrine au moyen de lambeaux de sa propre chair. Alors, c'est gore, je l'ai dit. Vous savez, une expression qui m'a frappé dans Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, c'est « ce soir, on va manger du saignant », vous voyez, hein. Eh bien, quand j'étais enfant, adolescent, je lisais ça, ça me faisait frémir. Hein. Bon, de quoi s'agit-il, etc. Hein. C'est une phrase énigmatique, frissonnante, surréalisante aussi. Hein. Bon, maintenant je vois une singulière application de cette expression. Beaucoup de chrétiens, je le répète, en milieu catholique, aiment encore leur Dieu de cette façon, leur Dieu saignant. Hein. Et alors, moi je pense, et là je n'engage que moi, bien sûr, je ne veux choquer personne, je pense qu'il est plus fidèle à ce qu'a pu être le personnage historique de Jésus, et aussi plus intéressant pour ce qui est de nos propres vies, de le voir, non pas comme un pélican qui déchire sa propre chair et nourrit ses enfants de sa chair, mais de le voir comme un maître en enseignement, comme un instituteur de la parole. Hein. Et c'est ainsi qu'il est nommé d'ailleurs dans les textes néo-testamentaires, dans les évangiles. Par exemple, il est appelé rabbi en hébreu ou en araméen, hein, d'où notre mot rabbin. Le rabbin, c'est pas du tout un prêtre, hein, au sens chrétien catholique, hein, pas du tout. C'est simplement quelqu'un qui fait l'exégèse de la Bible, hein, de la Torah, par exemple, rabbin. Alors la traduction dans les textes évangéliques de rabbi, c'est didaskalos en grec, hein, et en latin magister. Donc c'est quelqu'un qui qui nous montre ce que nous pouvons penser dans les textes. Hein. Est-ce que Jésus a pu prévoir sa propre mort, hein? Est-ce qu'il a pu la transformer par avance en processus salvateur? Selon cette idéologie sacrificielle rédemptrice que Paul a introduite, hein, je ne le sais pas. Je ne me prononce même pas, à la limite, vous voyez, en forçant peut-être ma pensée, je ne me prononce même pas sur son existence historique. Mais je sais très bien ce qu'est en nous la résonance d'une parole et la gratitude que nous devons à ceux qui nous transmettent cette parole et ceux qui l'éclairent, hein. Même s'il y a là une fiction et une invention, hein, car il y a toujours derrière une certaine bouche qui parle, une certaine main qui écrit. Et là, je renvoie à la dernière émission que j'ai faite, hélas, sans vous, Redouane, sur les fictions évangéliques, hein, la dernière émission de radio que j'ai fait tout seul. Hein. Je crois que voir Jésus comme une voix, V-O-I-X, qui nous montre la voix, V-O-I-E, que nous pouvons suivre, c'est l'essentiel. Hein. Alors, même si cette voix a été entourée après de récits fictionnels, de storytelling, hein, bon, peu importe, hein, allons au centre de cette voix. Il y a un passage dans les évangiles que je ne peux jamais relire sans émotion. C'est le passage des pèlerins d'Emmaüs dans l'évangile selon Luc. Alors vous connaissez le passage, Jésus apparaît, hein, les pèlerins sont très tristes, ils pensent que Jésus est mort, puis Jésus leur apparaît, ils le reconnaissent à la fraction du pain à l'auberge, et ensuite Jésus disparaît. Et alors, il apparaît d'abord, il disparaît ensuite, et ensuite il transparaît, alors pour les chrétiens, dans la fraction du pain eucharistique, voilà, hein, apparaître, disparaître, transparaître, hein, tel que ça s'est passé à l'auberge. Et alors, que disent les pèlerins d'Emmaüs après la disparition de Jésus? Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? En fait, le mot expliquer, c'est mal traduit, c'est le terme anoigein en grec, c'est-à-dire il nous ouvrait les Écritures, il les déployait à nos yeux. Remarquez que explicare, hein, expliquer, explicare, c'est ça, c'est déployer, déplier, hein, voilà. Hein. Donc, une voix qui montre la voie et un souvenir qui donne un avenir, ce n'est pas rien, car le cœur bat à cette occasion, comme pour les pèlerins d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, hein. Alors, que ce qui fait battre le cœur, soit une légende ou non, à mon avis, n'a aucune importance. Hein. Je préfère donc, vous le voyez, chers auditeurs, le christianisme de la parole, et donc, si vous voulez, la première partie de la messe catholique, au christianisme de la mort sacrificielle et rédemptrice du Seigneur, que l'on célèbre, chez les catholiques toujours, à partir de l'offertoire. Et dans mon livre « Les deux visages de Dieu », qui est consacré au credo, hein, qui est paru chez Albin Michel en 2001, qui hélas maintenant est épuisé, mais enfin, dont j'ai encore des exemplaires chez moi, hein, pour ceux que cela pourrait intéresser, eh bien, j'ai dit que je préférais le Christ enseignant qui nous sauve, hein, au Christ qui nous sauve enseignant. Alors je m'excuse du calembour, hein, mais ce Christ enseignant, tel que vous l'avez par exemple au portail sud de la cathédrale de Chartres, hein, il tient un livre à la main, hein, voilà. Donc, alors, bon, là, je vous regarde avec, comment dire, appréhension, Redouane. Je vais parler de Paul. Me semble-t-il, hein, c'est Paul, me semble-t-il, qui a créé le christianisme du sacrifice, puisqu'il ne fait en aucun de ses textes, ou quasiment en aucun de ses textes, allusion à l'enseignement de Jésus. Et Paul a convoqué Jésus pour soutenir sa fameuse parole de la croix que l'on a dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. « O logos toustaourou », la parole de la croix. Cette expression a deux sens. Il peut s'agir de la croix elle-même qui parle, et donc le génitif « toustaourou » serait un génitif subjectif, ou d'une prédication à son propos. Il s'agirait d'un génitif objectif, c'est-à-dire une prédication dont la croix est l'objet. Hein. Alors, pour moi seulement, elle n'a guère de sens, parce que le mot « parole » est quelque chose d'humain, et un objet, à mon avis, ne parle pas. Donc, il me semble, et là je suis très prudent, je ne veux choquer personne, mais il me semble que tout l'enseignement verbal de Jésus meurt derrière un scénario de mort salvifique et de résurrection qui est de toute autre origine, hein, d'origine païenne. Mais c'est ce seul scénario aussi que mentionne le credo catholique, hein, qui ne rapporte que la naissance de Jésus, né de la Vierge Marie, d'abord, et ensuite sa dernière souffrance, sa passion, son ensevelissement et son redressement ou sa résurrection finale. Mais absolument rien de ce que Jésus a pu dire entre-temps, durant toute sa vie, hein, de 0 à 30 ans, ou même durant son seul ministère, les trois dernières années de sa vie. Le credo n'en dit rien. Alors, je sais bien que ce christianisme-là a beaucoup de fidèles encore, et nous continuons encore pour nous porter chance à toucher du bois, à croiser les doigts, à nous signer en souvenir de la croix ensanglantée, même si les protestants ne pratiquent pas cet usage et ne font pas le signe de croix. Et peut-être aussi ce sang est le fond, au fond le meilleur suimant des communautés. Et peut-être que ma position est ici trop individualiste. Parce que c'est vrai que réfléchir en solitude sur la résonance intérieure d'une parole, c'est ce que j'essaie de faire moi, hein, n'est sans doute pas le meilleur moyen de faire corps avec les autres. Hein, et pourquoi pas de chanter ensemble la tête pleine d'un scénario qui est émotionnellement très fort. Car pour la passion, on se passionne, et même et surtout quand elle est sanglante et tuméfiée. Je pense par exemple au film de Mel Gibson, qui est utilisé dans la catéchèse, dans les milieux évangéliques encore. Hein. Alors c'est un match de boxe cette passion. Hein. Et aussi tous les prestiges de l'art, comme nous l'avons entendu lors de la pause musicale précédente, l'émotion que l'art suscite font beaucoup pour le christianisme officiel et sacrificiel. Combien d'Agnus Dei en musique font oublier le fond du thème, hein. Alors, pour reprendre mon missel, quand je l'ai ouvert après ma visite à la cathédrale de Montpellier, j'ai trouvé, avant l'Adorotée, je t'adore, hein, il y a le O Salutaris Hostia, qui a donné naissance à de sublimes musiques, hein. O Salutaris Hostia, quae caeli spandis ostium, bella premunt hostilia, darobur fer auxilium. C'est-à-dire victime qui apporte le salut, voyez, victime qui apporte le salut, qui nous ouvre l'entrée du ciel, les assauts ennemis nous pressent, donne-nous la force, apporte-nous du secours. Je dirais là que c'est la Marseillaise du croyant. Hein. Et alors comme pour la Marseillaise, il ne faut pas trop regarder les paroles. Hein. La Marseillaise, c'est un, pour nous Français, c'est un hymne sanguinaire et raciste. Hein. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, hein. Racisme et sanguinaire. Donc, la musique n'adoucit pas les mœurs, hein, dans la Marseillaise. Alors, mais malgré tout, un frisson passe quand on chante ensemble la Marseillaise, la communauté est soudée, le peuple est soudé, et après tout, si c'est utile à cela, il faut l'admettre. En fait, les foules ne prêtent guère attention aux paroles de la Marseillaise, il suffit qu'elles soient galvanisées par ces paroles. Alors on est ému, on frissonne, éventuellement on pleure, alors on oublie que les larmes brouillent le regard, et que parfois il peut y avoir une obscénité de l'art, comme le disait Bertolt Brecht en parlant de la catharsis, hein. Cette purification qui fait pleurer à la fin des tragédies empêche de voir le contenu parfois inadmissible de l'œuvre. Alors, si le pélican déchire sa poitrine pour en nourrir ses enfants, je dirais que l'image du sacrifice qu'il nous donne est sûrement émotionnellement très forte. Mais je dirais, et là je ne parle que pour moi, hein, que intellectuellement cette image me gêne, parce qu'il me semble qu'on se nourrit davantage et plus profondément d'une parole que de chair, hein, que de nourriture matérielle, vous voyez, hein. Et d'un point de vue moral ou éthique, cette vision est dangereuse, car le vrai amour de l'autre, qu'il faut aimer comme soi-même, comme le dit Jésus dans l'Évangile en reprenant une parole de la Bible juive, hein, ce vrai amour de l'autre n'exige pas le sacrifice de soi, parce que celui qui fait mépris de soi ne peut pas aimer véritablement les autres, vous voyez, hein, qui n'est bon pour soi n'est bon pour personne. Bon, même quand on veut soigner l'autre, il faut pas se nier soi-même. Comme on dit, j'aime bien jouer sur les mots, je dis, quand on est un soignant, on ne doit pas être un soignant, hein, se nier soi-même, vous voyez. N'oubliez pas Saint-Martin, hein, qui a partagé son manteau avec le pauvre, et il ne lui a pas donné tout entier son manteau. Alors là, j'aimerais bien, Renaud, que vous me disiez ce qu'il en est justement de Paul et comment ma vision a été, comment dire, travaillée par la théologie protestante et pour aboutir à un autre contenu. Vous disiez, nous sommes tous sauvés, c'est ça, hein,
Oui, c'est toute la problématique dans l'épître aux Romains.
Voilà.
Et qui aboutit à la pensée de Luther, hein. Solideo Gloria, tous les soli qui ont donné la réforme, et puis toujours pécheurs, mais toujours sauvés. Voilà. Donc c'est l'essentiel, me semble-t-il, il est là.
Oui.
Et dans cet épître, et c'est là aussi un des visages de Paul, ce qu'il faut voir dans Paul, c'est qu'il y a une évolution aussi dans sa théologie, hein. Il ne part pas de rien, il part d'un terreau juif, il était pharisien, et lui-même doit petit à petit s'alléger de cette théologie qui était plus que contestable.
Alors il me semble évidemment que pour Luther, le prêtre n'existe plus, puisque tout chrétien baptisé est un prêtre, en quelque sorte, c'est l'idée de sacerdoce universel, hein. Donc cette idée du prêtre sacrificateur, hein, et à la fois victime et sacrificateur, comme on le voit dans l'épître aux Hébreux, qui est assez bizarre d'ailleurs, hein, n'existe pas en monde de protestants. Hein. Et finalement, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles, je crois, la papauté romaine n'admet pas l'ordination de femme à la prêtrise, parce que si le prêtre est un sacrificateur, ce n'est pas le rôle d'une femme que de verser le sang, vous voyez, hein, que de faire couler le sang, voilà. Par exemple, dans les campagnes, l'homme sacrifie et la femme recueille le sang dans un bol ou une coupe, hein. Bon, donc c'est pour une raison théologique, me semble-t-il, hein, que l'on n'admet pas cette admission des femmes à la prêtrise. Quant à un monde protestant, le pasteur n'est pas du tout un sacrificateur, donc il y a des femmes pasteurs, bien entendu, comme il y a des rabbins d'ailleurs, pas beaucoup, mais il y a des rabbins femmes, hein, donc il s'agit d'expliquer la parole. Donc ce dont je parle, hein, c'est simplement quelque chose de propre au catholicisme. Et alors je conclurai en disant qu'au fond, le plus grand reproche que je peux faire à ce groupe sculpté du Christ pélican, hein, c'est qu'il nous donne l'image d'un assistanat. En effet, le don en lui-même, quand bien même ce don serait-il don d'une partie de soi, d'une amputation, hein, et par exemple, il y a des choses très belles, très émouvantes, donner un rein, par exemple, à quelqu'un de sa famille pour qu'il puisse survivre, etc. C'est magnifique, ça, hein, c'est très beau, hein. Mais revenons à cette idée d'un don. cette idée du don, eh bien, à mon avis, s'il reste ponctuel, le don, il n'y a pas aide pour le long terme, il n'y a pas transmission durable d'un savoir. Vous savez, Redouane, j'aime bien réfléchir au proverbe, hein. Le proverbe dit bien, si on donne un poisson à quelqu'un, on le nourrit pour une journée. Si on lui apprend à pêcher, on le nourrit pour toute la vie. Alors là, c'est la victoire de l'enseignement sur le sacrifice. Apprendre comment, hein, comment faire pour, hein, know how, comme on dit en anglais, le savoir comment, hein, voilà, apprendre à pêcher. Ça, c'est plus important que de donner le poisson, hein. Donc faire méditer sur justement le don ponctuel et au contraire le don sur la durée. Alors le pélican pourrait y réfléchir au lieu de nourrir ses petits, hein, fût-ce de sa propre chair. Est-ce qu'il ne pourrait pas leur apprendre à se nourrir eux-mêmes? C'est-à-dire ne pas rester éternellement dans la suggestion, dans l'assujettissement et dans l'enfance. Ce rôle d'instituteur qui fait grandir, à mon avis, n'est pas moins digne que l'autre. Ben, vous et moi sommes pères, Redouane, nous savons que nos enfants, nous devons apprendre des choses et non pas les subventionner tout le temps, hein, il me semble. Nous devons leur apprendre comment faire pour se comporter, hein. Non, Redouane.
Oui. Mais c'est, je tique en particulier sur l'assistanat, sur le terme assistanat. Je pense qu'on a besoin à des moments donnés, parce qu'on traverse des moments un peu difficiles, ou bien on est dans une certaine faiblesse, une certaine précarité. Et l'assistanat, c'est quelqu'un qui nous soutient à un moment donné. Et je mettrai en parallèle entre l'image de Jésus pélican avec l'image de la source d'abondance, hein, dans le dialogue entre la Samaritaine et Jésus. Justement, il lui donne cette eau dont elle n'aura plus, en buvant de cette eau, elle n'aura plus soif. Mais il y a cette phase, je pense, dans tout cheminement, on chemine avec des pas peu assurés. Et l'assistanat nous permet de justement de pas seulement compter sur nos propres forces, ce qui fait parfois l'obscurantisme et le fondamentalisme.
Oui. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ponctuellement, le don est nécessaire, hein, venir en aide à, etc. Mais sur la durée, il faut transmettre ce que l'on sait, aux gens pour qu'ils se
petit pélican deviendra grand quand même.
Hein. Ah oui, le petit pélican deviendra grand. Alors,
il donnera tout ce que vous avez d'ailleurs rapporté dans votre livre sur les différentes hérésies chrétiennes.
Ah bien sûr, oui, il y aura justement un futur. Alors, si les auditeurs veulent lire le texte de cette émission et voir la photo justement de l'hôtel de la cathédrale de Montpellier, du déambulatoire au nord, ainsi qu'une photo agrandie du pélican nourrissant ses enfants, eh bien, ils peuvent aller sur mon blog, hein, www.michel-theron.fr, aller dans la colonne de droite, dans le champ recherche, et taper le Christ pélican, voilà, hein, et donc ils trouveront à la fois le texte et les images.
Merci Michel, j'espère que on a, maintenant que tu m'as donné ton cœur,
ah oui,
je peux maintenant m'en aller paisible. On vous remercie de partager ce rendez-vous et on vous donne rendez-vous encore jusqu'à la fin juin avant la pause de l'été, toujours jeudi prochain, même heure, même longueur d'onde, et en attendant, portez-vous bien. Et au revoir.
Voilà, je parlerai alors du contraire du Christ pélican, du Christ compagnon. Voilà, le Christ compagnon qui nous accompagne. Voilà, au revoir à tous. Au revoir à tous.